carrefour des arts. Théâtre et patrimoine, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Francis Huster, qui a monté au Bouffe Parisien à partir de deux textes de Marcel Aimé, sa célèbre nouvelle Traversée de Paris et son roman Le Chemin des Écoliers, un spectacle intitulé Traversée de Paris et qui restera à l'affiche jusqu'au 2 janvier 2010. Le 18 octobre 1942, deux compères de fortune, Martin et Grandgilles, entreprennent la traversée de Paris, la nuit, afin de livrer un cochon découpé caché dans des valises. Seul en scène, Francis Huster incarne pendant une heure et quart 12 personnages avec une énergie, avec un enthousiasme, une fougue qui s'apparente à celle d'un justicier. Alors les spectateurs sont constamment tenus en haleine et à la sortie, on entend des gens surpris qui disent « Ah, c'était cela, Marcel Aimé, quel talent, quelle profondeur, mais aussi quel courage ». Francis Huster, bonjour. Ce spectacle, c'est la réalisation d'un engagement pris il y a 20 ans ?
Oui. Jean-Louis Barrault avait adapté La Peste d'Albert Camus, avec Albert Camus, sous le titre de L'état de siège. Et les représentations avaient été catastrophiques au Théâtre Marigny. Jean-Louis en était fou furieux. Il m'avait demandé, 40 ans après, de remonter La Peste. Et j'en avais fait une adaptation pour le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, où j'étais tout seul. Et Jean-Louis, au soir de la première de ce spectacle, La Peste, m'avait fait prêter serment d'associer au succès de La Peste et d'Albert Camus, l'œuvre de Marcel Aimé, en l'occurrence Le Chemin des Écoliers traversé de Paris, pour hisser Marcel Aimé à sa gloire. C'est-à-dire que d'un côté, on a avec Albert Camus un écrivain qui va bientôt entrer au Panthéon. Ce ne sera que justice, mais on a un écrivain qui, de l'autre côté de la Méditerranée, entreprend une œuvre droite, une œuvre de foi en l'homme. N'oublions jamais que pour Camus, derrière la ligne de la mort, il n'y a rien. Et cet homme, ce pied noir, Camus, avec La Peste, écrit un chef-d'œuvre, mais qui est une métaphore. C'est-à-dire que dans La Peste, ce sont les rats qui envahissent Oran. Et bien évidemment, ces rats représentent la peste brune, le nazisme. Et on ferme les portes de la ville. Et puis finalement, il y a les wagons d'incinération, il y a les héros, il y a les salauds. Et puis la peste est vaincue. Et quand on ouvre à nouveau les portes, alors Camus nous prévient, attention, la bête ne meurt jamais. Mais ce que Camus a écrit pendant la guerre, sans prendre aucun risque, et qu'il a publié en 1947... Marcel Aimé, lui, l'écrivait d'une toute autre façon, en France, en pleine guerre, en plein Paris, sous l'occupation allemande, et le gouvernement du maréchal Pétain. Et ce que Marcel Aimé a laissé comme empreinte, ce courage que saluent les spectateurs, puisqu'il a fait paraître Le Chemin des Écoliers juste après la guerre en 1945, et puis tout de suite après, dans le recueil de nouvelles Le Vin de Paris, l'une de ses nouvelles prodigieuses Traversée de Paris, ce que Marcel Aimé a fait, lui, alors, est un acte qui est totalement laissé dans l'ombre, parce que malheureusement, comme Georges Simenon, Marcel Aimé a été tellement adapté par le cinéma, de nombreux chefs-d'œuvre pour ces deux auteurs, qu'on a totalement occulté, pour Simenon comme pour Marcel Aimé dans certains romans, toute la partie politique, la partie qui était la plus chère au cœur de Marcel Aimé, où il pouvait justifier ce qu'il était en tant qu'homme, au-delà de l'écrivain prodigieux. Et c'est cette partie-là, c'est-à-dire ces pages inouïes où Marcel Aimé dénonce à la fois la collaboration, les trahisons, le nazisme, où il fait preuve d'un acte de foi en l'homme et en l'avenir exceptionnel. Ce sont ces pages-là que Jean-Louis Barrault voulait absolument voir porter sur scène. Et donc, 20 ans après le décès de Jean-Louis, malheureusement, il m'a fallu longtemps, mais grâce à Bruno Fink et Dominique Dumont, au Théâtre des Bouffes Parisiens, ce théâtre qui est tellement porté d'histoire, et surtout pendant l'occupation aussi, eh bien j'ai la chance de pouvoir présenter, exactement dans les conditions que souhaitait Jean-Louis, ce spectacle, c'est-à-dire trois faits très précis. Premièrement, le jouer à une heure tout à fait anormale, pour que le public vienne précisément et volontairement pour entendre le texte. Pas du tout pour voir un spectacle avec costume, décor, mais pour avoir un vrai rapport avec le texte. Deuxièmement, rendre ce texte d'une façon tout à fait paradoxale, inouïe, pour que ce soit le texte qui prime. Donc un acteur tout seul qui interprète toute l'œuvre dans un laps de temps d'une heure et quart, à cette heure tout à fait anormale de 19h, où les gens sortent du travail, ne sont pas encore dans leur famille, et puissent se replonger dans cette atmosphère extraordinaire, inouïe, de la guerre de 39-40, et puissent rencontrer, et c'est là le troisième fait, une langue, un auteur, un monde intérieur que portait Marcel Aimé en lui et qui nous parvient enfin dans sa pureté. Il faut se replacer dans les années 50. Toutes les adaptations sur Simenon et Marcel Aimé ont été déviées dans le sens où le cinéma à cette époque-là était à 80% un cinéma commercial, un cinéma qui devait toucher le plus grand public. Il n'y avait pas une vraie censure, mais il y avait des films qui étaient, avant même de pouvoir être montés, un peu purgés de ce qui pouvait choquer. Et en l'occurrence, le choquant, la révolte de Marcel Aimé, on l'a totalement fait disparaître des deux adaptations magnifiques. Celle de Claude Autant-Lara, La traversée de Paris avec Gabin, Bourvil, de Funès. Celle de Michel Boiron avec Le chemin des écoliers, avec toujours le même Bourvil, avec Lino Ventura, Alain Delon, Jean-Claude Brialy, Pierre Mondy, Françoise Arnoux. Alors deux chefs-d'œuvre tirés de l'œuvre de Marcel Aimé, dont on a gardé pour la plupart les dialogues, mais dont on a enlevé et transformé totalement l'intrigue. Pour Traverser de Paris, on coupe carrément toute la fin de la nouvelle. On change totalement le personnage, interprété par Gabin, qui est un héros de la guerre. On lui fait dire ces mots absolument odieux, salaud de pauvre, et tout ce qui se passe dans le café quand les deux héros, Grandgilles et Martin, se retrouvent avec leurs valises pour échapper aux Allemands ou à la police française coincés dans ce café. Je dois dire que Claude Mauriac a d'ailleurs été extrêmement choqué qu'un héros, un vrai, un héros de la guerre, un Gabin dans les tanks, comme Claude Dauphin, comme Jean Marais, il l'a vraiment fait la guerre, lui. Eh bien, Mauriac était choqué, bien sûr, qu'on ait donné un rôle pareil à Gabin, ben forcément, puisque la fin de la nouvelle avait été occultée et qu'on ne comprend pas dans le film pourquoi ce personnage se conduit de cette façon-là, alors qu'on le comprend évidemment maintenant au théâtre, avec l'œuvre rendue dans sa totalité. Puis pour Le chemin des écoliers, la même chose. On a fait un film où il ne fallait pas non plus choquer, il ne fallait pas reparler des Allemands, du nazisme, de la collaboration, de cette France coupée en deux. Il fallait au contraire cicatriser la plaie. Et donc on a proposé, à la fois dans Traversée de Paris, un colonel allemand qui ne fait même pas le salut hitlérien, qui adore la peinture et qui sauve Gabin, et pour Le chemin des écoliers, on a totalement occulté l'héroïne qui est une juive, qui finit dans les camps. On a occulté un collabo qui s'engage dans la LVF. On le transforme en petit personnage sympathique. Et cette blessure a profondément touché et Jean-Louis Barrault et Marcel Aimé. Il ne faut pas oublier, remettons-nous à cette époque, il ne s'agit pas de dénoncer dans les années 50 ceux qui avaient, entre guillemets, trahi la France. Il s'agissait avant tout, au contraire, de cimenter une future France, celle de Gaulle, celle qui allait se construire dans les années 60. Alors Jean-Louis a longtemps gardé en lui cette rage de rendre justice à Marcel Aimé, de prouver que c'était un des justes de la littérature. Le point, évidemment, le plus touchant du succès de ce spectacle, au-delà de la rencontre avec cet auteur sublime qu'est Marcel Aimé, ce dialoguiste de génie, cette langue cruelle, vraie, qui fait honneur à la France, ces héros qui sont des héros du quotidien, l'extraordinaire, c'est le parcours de Marcel Aimé.
Alors là-dessus, justement, il y avait jusqu'à présent une ambiguïté terrible, parce que Marcel Aimé traînait une image assez sombre qui repose sur deux ou trois choses auxquelles vous rendez justice, vous. La première ambiguïté tient au fait que Marcel Aimé a quand même apporté sa signature dans des journaux qui ont été des journaux de la collaboration. C'est la première ambiguïté a été celle-là.
Voilà. Alors celle-là, elle va tout de suite être levée. Elle est à l'image de l'ambiguïté d'Octave Mirbeau, qui lui aussi, avant d'être Dreyfusard, a écrit dans des journaux d'extrême droite, mais le fait est que Marcel Aimé était écrivain. Avant-guerre, il est récompensé pour ses romans. Et puis la guerre arrive et il est obligé de gagner sa croûte. Et il n'y avait pas de livre de poche à cette époque-là. Le seul moyen, comme Balzac était et Maupassant, c'était de donner des nouvelles aux journaux. Et quand il écrivait des articles dans les journaux, il n'a jamais écrit une seule ligne pour les Allemands, une seule ligne pour la collaboration. Au contraire, c'était des œuvres où il défendait des artistes. Et il fallait absolument qu'il soit publié. Et au point de vue cinématographique, il a travaillé aussi bien avec Louis Daquin, communiste, qu'avec Claude Autant-Lara, qui était d'extrême droite. Il s'en foutait royalement. Il a été publié dans toutes sortes de journaux. On ne peut pas chercher une seule ligne qui dénature la morale vraiment intègre de Marcel Aimé. Et en plus, l'ambiguïté est telle que, par exemple, à la fin de la guerre, et c'est Madame Arletty qui me l'a raconté, puisque je l'ai très bien connue les 5 dernières années de sa vie, j'allais chez elle l'après-midi, elle était aveugle, elle me tenait la main et on parlait évidemment de Jean-Louis, de Sacha, de Marcel et évidemment de Céline. Et elle m'a raconté justement qu'elle avait croisé Marcel à la fin de la guerre, qui lui avait dit « Ah ben, on a été épurés tous les deux », parce qu'en fait, on avait reproché, d'une part, tout le monde le sait, à Arletty, son histoire d'amour avec son officier allemand. Et puis deuxièmement, où elle disait « Mon cul est international !» Et puis deuxièmement, on avait reproché à Marcel d'avoir travaillé pour la Continentale, pour un film d'ailleurs qui n'était pas un chef-d'œuvre, et il l'avait fait pour bouffer. C'est tout. Et on avait reproché, alors par contre, à Sacha Guitry, lui, de n'avoir pas travaillé avec la Continentale. Non, il n'y a eu aucune ambiguïté sur le parcours de Marcel Aimé. Le problème, c'est l'ombre immense de Louis-Ferdinand Céline.
Voilà, c'était son ami à vie et à la mort, Céline.
À la vie et à la mort, il n'a jamais voulu le trahir. Il a peint de lui, d'ailleurs, avec des mots extrêmement durs, un personnage dans l'une de ses nouvelles. Il a déclaré, d'ailleurs, à propos de Céline, que si Céline avait été un tel antisémite notoire et qu'il avait pris de telles positions et écrit des horreurs, c'est parce qu'il avait été élevé dans une famille qui l'a éduqué de cette façon-là.
Ce qui est vrai,
totalement vrai. Il n'a jamais voulu trahir non plus Brasillac, qui lui avait permis à un moment...
Il faut quand même préciser, parce qu'on n'a pas très bien compris, certains ne comprennent pas, que Marcel Aimé ait pris l'initiative de lancer une pétition contre la
condamnation à mort, oui, de Brasillac. Bah, tout simplement parce que quand Brasillac était condamné à mort, Marcel Aimé a saisi l'occasion intime, conviction, de lutter contre la peine de mort. Alors il a été trouvé Picasso, il a été trouvé Albert Camus, et il leur a demandé de signer une pétition. Albert Camus a signé la pétition, Picasso a refusé. Et Camus l'a signé en disant qu'évidemment...
Avec un texte très significatif.
Terrible, où il parle de la souillure Brasillac et où il dit qu'évidemment il ne veut même pas en dire un mot, mais qu'il signera cette pétition parce qu'il est contre la peine de mort, quelle que soit évidemment la personnalité du coupable. Il était pour le pardon, Camus, le pardon humain, ce qui est tout à fait paradoxal pour lui qui n'avait pas la foi de l'au-delà. Et cette unité, Albert Camus, Marcel Aimé, sur le fond, pour lutter contre la peine de mort et que partageait évidemment Jean-Louis Barrault, c'est ce qui est le lien le plus paradoxal. D'un côté, pour Albert Camus, c'est l'auréole. Vous vous rendez compte, Camus défendant Brasillac, voulant sauver la tête de Brasillac. Et de l'autre côté, Marcel Aimé, évidemment, puisque Marcel Aimé, Céline, etc., il doit être du même bord et tout. C'est totalement faux. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en 1942, quand le maréchal Pétain et son gouvernement ordonnent le port de l'étoile jaune pour les Juifs, un seul homme se dresse le jour même. Vous vous rendez compte, le jour même, il écrit un article, mais d'une violence inouïe contre Pétain, contre ce qu'il appelle l'indignité nationale pour la France, le pays des valeurs humaines, etc. Et cet article, il va le porter lui-même. Non, mais voyez, même sa naïveté d'homme, il va le porter lui-même au journal de collaboration. Évidemment, l'article ne paraît pas, mais il est imprimé. L'imprimerie, avec les ouvriers communistes, font sortir cet article sous le manteau. Et à la fin de la guerre, Dieu merci, Henri Janson possédait cet article. Mais Marcel Aimé ne s'en était même pas vanté. J'ai connu Marcel Aimé, je l'ai rencontré à 2-3 occasions, notamment au Théâtre de l'Athénée, quand René Dupuis a mis en scène la Convention Belzébir, sa pièce. Et le personnage dans la vie était très imposant. Il ne parlait pas. C'est vrai, comme le dit Anouilh, qu'il avait une tête de Bouddha et qu'on le voyait très, en même temps très sensible dans son visage, mais très ailleurs. Où était-il ? probablement toujours dans son œuvre. Il ne cherche pas des excuses à l'homme, il l'absout. Je crois qu'il y a des écrivains qui sont des miroirs de leur société et qui, dans leurs œuvres, tracent un portrait de l'homme comme si l'homme faisait partie d'un puzzle géant. La rareté de Marcel Aimé, c'est de ne pas avoir tracé un miroir de la société, c'est d'avoir tracé un miroir de l'homme. Le puzzle, c'est l'homme lui-même. Et tous les héros...
D'où le fait que vous incarniez 12 personnages en même temps, c'est, symboliquement, c'est très important.
Très important.
Vous voulez dire que chacun, nous avons en nous les morceaux d'un puzzle général.
Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la morale de Marcel Aimé, c'est de signifier que l'homme peut être à la fois un salaud ou un héros, le même homme, selon les circonstances de la vie. Et ce choix de vie, c'est là le noyau d'âme dur chez Marcel Aimé. Lui, il a voulu regarder les autres de l'intérieur de son être à lui pour voir ce qui, chez les autres, lui ressemblait. Et c'est probablement la raison pour laquelle il n'a jamais trahi ses amis, parce que trahir un ami, c'était se trahir lui-même. Et quand on interprète, comme pour ce spectacle, une douzaine de personnages, je sens bien même, et c'est ce que j'essaye d'exprimer dans la petite causerie d'un quart d'heure avant que le spectacle commence, je sens bien qu'effectivement, on peut devenir un héros ou un salaud suivant ce qui se passe dans la vie et selon ses choix. Prenons l'exemple de Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin. Il commence par être un antisémite notoire, il le raconte dans son livre admirable, et puis il finit en héros. Jean Giraudoux, qui laisse une œuvre admirable, comme Céline, qui laisse une œuvre admirable. Jean Giraudoux, comme Céline, il a laissé des écrits épouvantables, Jean Giraudoux. Vraiment, il parle de foutre à la porte tous ces rastaquaires. Ce sont ses propres mots, rastaquaires, des écrits racistes et tout. Jean Anouilh, secrétaire de Louis Jouvet, notre patron Jean Anouilh ne l'a pas supporté. Il a exigé que Jouvet ferme la porte à Anouilh et puis Jouvet refusant, admettant tout à fait les travers de Giraudoux, ne partageant pas du tout son opinion, mais Jouvet voulait continuer à servir l'artiste comme un chef d'orchestre juif qui continue comme Gustav Mahler à interpréter du Richard Wagner, choisi par Cosima Wagner elle-même.
Mais là, il y a vraiment un itinéraire tout à fait étonnant, c'est celui d'Anouilh par rapport à Marcel Aimé.
Incroyable.
Ce que vous racontez, c'est extraordinaire cette histoire.
Incroyable itinéraire. Il va voir Jouvet et lui dit donc, alors, où c'est Giraudoux ou moi. Et Jouvet donc prend le parti de Giraudoux et Anouilh ne parle plus du tout. À Jouvet, une haine totale toute sa vie. La veille de sa mort, j'ai écrit à Anouilh en lui disant « Maître, je vous en supplie, réconciliez-vous avec le patron, avec Jouvet, avant d'aller le rejoindre là-haut. Faites-le, je vous en supplie. N'allez pas là-haut, dans cet état déraisonné que vous avez choisi depuis tant d'années. » Jean Anouilh m'a écrit une lettre tapée à la machine, il n'avait plus la force d'écrire, il a signé, il m'a laissé une ligne très gentille. Et cette lettre bouleversante où il se réconcilie effectivement avec Jouvet, où il parle des moments où tout jeune il allait à l'Athénée, au Perchoir, aux Enfants du Paradis pour admirer le patron. Cette lettre, on l'a reçue avec Jean-Louis 6 heures avant la mort de Jean Anouilh. Alors, on a décidé de dédier ce spectacle à Jean Anouilh. Et Jean Anouilh, le 16 octobre 1967, aux obsèques de Marcel Aimé, Jean Anouilh a écrit un texte, mais bouleversant, où il nous parle de celui qu'on appelait Môme Courage, pour ce qu'il faisait justement, Marcel Aimé, de cet homme qui était si rare à cette époque-là, et du fait qu'il a retrouvé, après sa mort, la vraie France, il a retrouvé La Fontaine, du fait que, maintenant qu'il est mort, et nous sommes en 1967, Marcel Aimé nous parle enfin intarissablement le cher muet. Eh bien, il aura fallu passer de 1967 à 2009 pour qu'enfin la totalité de sa parole soit entendue. Et au cours de ces représentations, qui sont un peu spéciales, puisqu'il y a l'acteur tout seul qui interprète tous les personnages, sans faire de composition. Par exemple, quand j'interprète la jeune juive, je ne prends pas une voix de femme. Et au cours de ces rencontres avec le public, de ce partage autour de cette langue admirable de Marcel Aimé, il y a une chose incroyable, c'est l'attitude des jeunes. Nous, qui avons la cinquantaine, la soixantaine...
Vous dites, moi, j'y étais avec mon dernier fils de 18 ans, du début à la fin, il était captivé.
C'est inouï. Je crois qu'on a une très mauvaise idée de l'état d'esprit de la jeunesse de ce pays. Elle ne demande qu'une seule chose, la vérité. Rappelons-nous notre jeunesse, on avait 20 ans, on nous a menti. On nous a menti dans nos livres scolaires. Ce qu'on nous disait de la Russie soviétique était faux. Quand on nous obligeait au bac à parler du plan tertiaire de Staline, de Mao Tse-tung, le libérateur, de Fidel Castro qui luttait contre l'Amérique, on en a donné de ces dictateurs criminels des images qui ont fait dévier la jeunesse des pays européens, on nous mentait. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, les jeunes de 15 ans ne veulent pas accepter le mensonge. Et donc c'est toute la vérité qu'il faut leur donner. Et cette vérité, il faut la leur donner, surtout nous les hommes de spectacle, vivants, il faut la donner à travers les textes de ceux qui ont eu le courage de l'écrire, cette vérité. Et il faut l'accepter.
À propos justement de ce courage, il y a deux moments extrêmement forts dans votre spectacle de prise de position de Marcel Aimé, mais pas une prise de position de journaliste, une prise de position de créateur. Ce moment d'une extrême violence à l'égard de la Gestapo française, quand Grangil raconte l'histoire de cette fille qui a refusé de se donner à un homme de la Gestapo, donc française, hein, je précise bien, le type l'a violée, il l'a fait interner et il l'a fait mettre à mort. Et ça... Donc Marcel Aimé, il l'a écrit en pleine guerre.
Ah, il l'a écrit en pleine guerre et c'est noir sur blanc dans Le Chemin des écoliers. Et je n'ai pas en plus tout pris dans Le Chemin des écoliers. Il y a des passages absolument inouïs pour lutter justement contre la peine de mort. Et il raconte l'histoire d'un gosse, d'un adolescent qui est maqué avec un arabe et qui fait un couple, un trio à trois avec une jeune fille. Et puis le gosse et l'arabe finissent par assassiner la petite, la couper en morceaux. Il est arrêté, il est condamné à mort. Et Marcel Aimé, à l'intérieur même du livre, se bat contre la peine de mort pour ce gosse-là. Enfin, c'est inouï, c'est du livre. Cet homme, on a l'impression que son écriture était une écriture non pas d'encre noire, mais d'encre de sang. Il y a, avec Marcel Aimé, probablement, comme le dit Jean Anouilh d'ailleurs, lui, il le traitait du plus grand écrivain français, parce qu'il y a aussi chez Anouilh cette cruauté, cette vérité humaine qu'il gifle à chaque fois dans ses œuvres. Donc il était très proche de Marcel, mais il y a vraiment chez Marcel Aimé quelque chose qui, moi, me fascine. Et j'en avais parlé avec Jean Marais au cours des représentations du CID, puisque Jean-Louis et moi, on parlait aussi, puisqu'il faisait partie des dispositions aussi, Jean-Louis Barrault, de Marcel Aimé, que Jeannot nous avait entendu. On avait parlé de Cocteau et de Marcel Aimé. Ben, paradoxalement, ils s'adoraient. C'est complètement inouï.
Vous savez, Cocteau est complètement méconnu. Enfin, le spectacle qui vient d'être remonté par Tardieu.
Magnifiquement, avec Jacques Cérès. Mais
tout le tragique de Cocteau.
Le tragique, et puis le côté aussi, cette pureté de langue. On peut dire que d'un côté, on a Marcel Aimé qui est dans les graves, dans ce qui fait mal, dans ce qui creuse, alors qu'avec Cocteau, on a quelqu'un qui est dans les aigus et qui jaillit. C'est un pétrole de la pensée, Jean Cocteau. Eh bien, il y a là des écrivains qui sont vraiment des écrivains français. On parle aujourd'hui d'identité nationale. Qu'est-ce qu'un Français ? J'ai toujours été bouleversé, quand j'étais jeune étudiant au conservatoire, j'en avais parlé à Pierre Dux, de cette phrase extraordinaire de Jean Giraudoux, et je continuerai à servir Jean Giraudoux, bien sûr. Si j'étais sculpteur de mots, je n'hésiterais pas à interpréter Céline comme le fait Fabrice Luchini. L'artiste, je le dissocie complètement de l'homme.
Ouais, pour vous, Rabelais, Céline, c'est Rabelais.
Oui, c'est Rabelais du XXe siècle. Et justement, la beauté de l'être humain, c'est de pouvoir être à la fois un salaud et un héros, de pouvoir être dans la vie quelqu'un d'extraordinaire, mais de faire une œuvre absolument lamentable. Et puis, le contraire, d'être quelqu'un de pas très fréquentable, mais qui fait une œuvre sublime. Et il y a dans l'impromptu de l'Alma, il y a chez Jean Giraudoux cette phrase extraordinaire que la France, c'est Jouvet qui dit ça à l'intérieur de l'œuvre, qui est un acte où toute la troupe de Jouvet à l'Athénée est en train de monter un spectacle, un peu comme l'impromptu de Versailles pour Molière, et Jouvet dit à un moment, donc par la voix de Jean Giraudoux, que la France, tant que la France existera, il y aura toujours quelqu'un pour dire non, il y aura toujours quelqu'un pour s'insurger contre une injustice dans le monde, et c'est ça l'identité nationale. C'est que la France, et c'est là où elle s'est vraiment déshonorée avec la main de Thierry Henry, non pas lui, le footballeur qui dans l'action d'un match peut tricher, c'est pas une faute, c'est une tricherie. Bon bah très bien, l'arbitre l'a pas vu, oh là là, le nombre de matchs de football où les joueurs trichent, n'en parlons même pas. Mais le déshonneur, il vient du sommet, ça veut dire que quand on attaque des jeunes qui sifflent le drapeau dans un stade, qu'on va même jusqu'à vouloir légiférer, eh bien alors, d'accord, c'est honteux de siffler son hymne national, parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour cet hymne. C'est un signe de respect vis-à-vis de la nation qu'on prétend avoir en soi-même, porter en soi. Mais de la même façon, c'est un déshonneur quand on porte le maillot national, qu'on représente la France comme un soldat, comme un médecin, comme un homme politique. C'est un déshonneur de tricher, enfin. Donc ça veut dire que là aussi, il y a une souillure et c'est pas l'idée qu'on doit avoir de la
France.
Et
cette souillure a été couverte par les autorités.
Elle a été couverte par les autorités, par certaines autorités du sport qui, oh, bon, c'est rien, oh, ça va, ça arrive, mais pas du tout. Que sur le terrain, il y a une faute, il n'y a aucun problème. Je veux dire, on a ce boxeur qui avait bouffé l'oreille de l'autre. Tout peut arriver au plus haut niveau dans un championnat du monde. Mike Tyson avec Holyfield. Non, non, là où. Par contre, ceux qui sont en haut de la pyramide doivent absolument réagir et réagir immédiatement. C'est quand l'honneur de ce pays, donc l'identité de ce pays, qui est un pays de partage, un pays qui depuis des centaines et des centaines d'années est l'étoile du monde, un pays qui donne des leçons à tout le monde, de respect, d'honneur, de courage, on ne peut pas laisser faire des
choses pareilles. Mais ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, la phrase de Giraudoux, c'est un pays qui dit non. Toutes les élites et toutes les autorités qui ont voulu couvrir le geste d'Henri en pensant en réalité se mettre bien avec la plupart n'ont en fait fait que l'inverse, puisque les sondages qui ont été publiés juste après montrent que 80% des Français désapprouvaient et considéraient que c'était honteux d'être qualifié dans ces conditions.
Mais bien
ce qui
sûr.
Veut dire quand même que tous ceux qui ont cru ce soir-là qu'il y avait une France qui mourrait, et moi j'étais, je peux le dire, j'avais exactement la même perception que vous, j'ai dit ce soir-là, il y a une civilisation qui meurt, on a vu trois jours après que ce n'était pas vrai, que c'était les élites qui avaient cette attitude.
Les élites se sont déshonorées, et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec mes maîtres, Barreau, Dux, Raymond Rouleau, Florent. J'ai beaucoup travaillé, évidemment, l'époque romaine, qui est le miroir de notre société. Et nous sommes vraiment dans la chute de l'Empire romain.
Oui, mais nous
l'effritement des valeurs.
Les Adriens, nous n'avons pas les Marc Aurèle.
Mais nous avons les Marc Antoine et les Brutus. Et puis, nous avons aussi le fait qu'un homme, un homme de bois, un homme qui travaillait le bois, qui s'appelait... Jésus de Nazareth, à lui tout seul, a renversé l'Empire romain. Aujourd'hui, on se trouve exactement dans la même situation. Ce ne sont pas les guerres qui renverseront notre civilisation. C'est l'idée, c'est la foi qui, tous les jours, gagne les hommes, quelle que soit leur foi. C'est la foi qui oblige les hommes à se séparer en communauté religieuse, en cercle fermé, repliés sur eux-mêmes. Et si le sport ou l'art n'arrive pas à prendre le dessus et à ouvrir les mentalités, alors on va vers la catastrophe et effectivement, je pense, la chute de notre empire. Tout devait être fait dans cette civilisation pour que chacun ait sa chance, pour que chacun puisse avoir la liberté du choix. Et si on ne se décide pas à assumer ses responsabilités, chacun à notre niveau, franchement, je pense que c'est foutu. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans l'Empire romain, ce sont les pestes. Tout d'un coup, comme une volonté du destin et du temps de tuer des civilisations aussi par des virus, des maladies, des horreurs. Et cette grippe-là, ce qui est en train de se passer dans le monde, après le sida, après tout ce qui nous tombe dessus, même des signes avant-coureurs de catastrophes physiques, planétaires, tout ça nous mêle devant nos responsabilités. On a besoin de faire preuve de plus de rigueur et surtout de plus de respect. Je crois que l'irrespect qu'on a des autres, on le voit tous les jours dans la rue, dans nos rapports quotidiens, avec tout le monde. La crise n'est pas seulement financière, elle n'est pas seulement au niveau de cette terre qui commence à se fissurer. Je crois que c'est une crise qui toucherait probablement Marcel Aimé et Albert Camus au plus profond d'eux-mêmes. Je pense qu'on ne croit plus en l'être humain, on ne croit plus en l'homme. Et quand on voit l'homme se conduire justement dans un petit détail aussi bête que cette main de Thierry Henry, on voit tout d'un coup que l'homme n'est plus lui-même le miroir des valeurs qu'il entend défendre. Vous comprenez ? Prenons par exemple Barack Obama. Barack Obama a été élu comme un espoir pour le monde entier. Où est-il, cet espoir ? Que se passe-t-il? Quel changement y a-t-il? Arrivera-t-il à être vraiment l'homme qui va faire ce que Kennedy a fait? Parce qu'on a eu beau salir la mémoire de Kennedy, mais il l'a fait. Ça veut dire qu'il a été entraîné dans le Vietnam malgré lui. Il est mort, assassiné, sinon il aurait certainement arrêté le Vietnam, ce que n'ont fait ni Johnson, ni au début évidemment Nixon, et il a été obligé de le faire pour la raison qu'on connaît, mais ce qu'a fait Kennedy, il l'a fait, il avait promis aux Noirs de changer l'Amérique, il l'a fait. Alors je ne sais pas si Barack Obama tiendra ses promesses, mais tout d'un coup, ce messie politique qui semble pouvoir détenir l'avenir du monde, ça donne froid dans le dos. Ça veut dire que le monde attend vraiment des messies, attend vraiment qu'un être puisse oser dire et oser changer le monde. Alors ça, je pense que c'est exactement la situation dramatique de l'Empire romain. Et le messie est arrivé au moment de l'Empire romain. Il a été crucifié, mais il est arrivé et il a changé le monde. Le messie, je ne parle pas seulement de l'être humain, de Jésus-Christ, je parle de la parole. C'est la parole qui change le monde, c'est jamais l'homme. Et je trouve que l'homme, en ce moment, est muet.
Et lorsqu'on est... Vous parlez de Marcel Aimé comme d'un chirurgien, un chirurgien de l'âme. Au fond, qu'est-ce qu'apporte un chirurgien de l'âme comme lui dans la compréhension de l'homme? Sa vision de l'homme est quand même très, très sombre.
Je crois que c'est pour ça qu'elle nous éclaire. Je crois que quand on a l'honnêteté de reconnaître qu'on est des bêtes, on a en nous quelque chose de bestial, de sexuel, de domination, de soumission, d'une violence qu'on a éteinte ou qu'on a cru pouvoir éteindre. Et je veux dire, la rage qui est en nous, qui est contenue, Marcel Aimé nous l'ouvre. Je crois qu'il a le courage de nous dire qu'effectivement, notre intérieur est un tunnel de mal, est un tunnel de lâcheté, est un tunnel d'égoïsme, et que ce sont évidemment les êtres sublimes qui ont traversé notre histoire, qui nous ont ouvert vers une éducation qui nous sert de morale humaine. Mais on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Et si à chaque fois les êtres exemplaires, les élites du monde, ne se conduisent pas d'une façon digne, alors c'est foutu. Et moi, je suis très, très, très inquiet pour mes enfants, parce que je ne sais plus qui détient la vérité. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il faut faire.
C'est le début de la sagesse, d'une certaine manière, quand même.
Oui, je vais vous poser une question. Qu'y a-t-il après la sagesse? Et malheureusement, je suis porté à vous dire le renoncement. Le renoncement.
Sisyphe, Camus.
Oui, exactement.
Toujours bouger le rocher?
Toujours bouger le rocher, oui. Qui finira par vous écraser. Et on a beau bouger la République, j'ai très très peur de ce qui va se passer aux élections, aux futures élections.
Mais en même temps, Francis Huster, lorsqu'on a affaire à un grand écrivain comme Marcel Aimé, lorsqu'il dépeint ce qu'il y a de plus sombre, curieusement, c'est peut-être là que tout à coup, on reprend espoir. L'histoire de Grandgilles et de cette jeune juive qui n'a pas 20 ans, on se dit quand même, en tant qu'homme, on ne peut pas accepter ça. La façon dont, dont Marcel Aimé parle de la peur de cette jeune femme qui dit « j'ai peur de mourir de peur » et qui, regardant les concierges, dit « je vois dans leurs yeux que je suis juive ». Et finalement, lorsque Grandgilles vient la chercher, la Gestapo est passée avant.
Oui, c'est admirable. C'est l'empreinte, la trace d'un grand écrivain, parce qu'il ne s'est jamais considéré comme un grand écrivain. C'est l'humilité qui fait de Marcel Aimé ou de Georges Simenon des écrivains de légende. Je ne peux pas dissocier aussi Georges Simenon de Marcel Aimé. Ils sont frères, parce que, et c'est pour ça que le cinéma a tempillé Marcel Aimé et Georges Simenon, parce que Simenon, c'est un écrivain d'une rigueur extrême, comme Marcel Aimé, qui ne veut rien dire. Il ne cherche pas à convaincre, il cherche à parler du silence de ses héros, il cherche à parler de ce que justement ces héros ne peuvent pas faire. Ce sont des ratés chez Simenon. Ce sont des vies qui se brisent. Et puis, cette force inexorable du temps qui use. On a là, avec Simenon, un Tchekhov de la littérature, un immense écrivain qui parle de l'âme humaine.
Ouais, on rôde dans les âmes.
Voilà, c'est ça. Vous savez, la langue française est merveilleuse. L'âme, pourquoi cet accent circonflexe sur le A de âme? Bah, tout simplement parce que l'âme s'élève. C'est le chapeau qui monte au ciel. Cette âme est déjà en direction du ciel. Il y a des traces, il y a des signes admirables qu'on ne sait pas regarder. Et Marcel Aimé, comme Georges Simenon, ont su, et c'est peut-être ça le talent qui fait d'un écrivain un être rare, c'est qu'ils ont su se regarder chez les autres. Se regarder chez les autres. On dit toujours que la postérité rend justice. Dans le cas de Georges Simenon et Marcel Aimé, j'y crois.
Mais vous disiez tout à l'heure donc que Marcel Aimé se sentait tout petit. Il y a quelque chose que vous révélez qui est assez extraordinaire, c'est que sa chanson préférée, c'était « Revoir Paris ». Or, dans « Revoir Paris », nous, on pense toujours Tour Eiffel et tout ça. Or, ce n'est pas vrai. Il est question de Nogent, il est question de...
De la Varenne.
Oui, de la Varenne. Et il dit « Moi, je suis un petit Français ».
Mais oui, c'est pour ça. C'est exactement pour ça qu'il adorait cette chanson. Un petit Français. C'est vrai qu'il a... Il a des souvenirs incroyables, Marcel Aimé. Il y a eu le Curaire a écrit des livres magnifiques sur lui, des biographies formidables, intègres. Et les amis de Marcel Aimé font un travail formidable aussi pour la mémoire de Marcel, sa petite fille, Delphine Guillot. J'ai bien connu sa maman, qui était merveilleuse. Et tous ces êtres ont toujours été profondément, vraiment touchés par l'injustice faite à Marcel Aimé. Ben voilà, justice est rendue. On a l'impression aussi, quand on est un lecteur anonyme, comme peut-être les auditeurs qui nous écoutent, on a l'impression, en lisant Marcel Aimé, d'être emporté par lui. Il y a quelque chose comme une feuille sur un fleuve. On ne peut pas s'arrêter de lire. C'est tout à fait curieux. Il y a des écrivains qui demandent le repos, qui demandent la pause, comme Marcel Proust. On a l'impression que si on ne s'arrête pas, on va finir par se noyer dans l'œuvre. On reprend même, bien souvent, à chaque fois que je me suis arrêté dans Marcel Proust, j'ai repris 4-5 pages avant pour me replonger là où j'en étais. Ce n'est pas du tout le fait avec Marcel Aimé. Marcel Aimé se lit d'une traite.
Oui, parce qu'il nous renvoie à nos silences, quelque part.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et disons que la fameuse phrase « les silences en musique » de Mozart, c'est encore du Mozart, mais pour ce qui est de Marcel Aimé, les silences nous parlent.
Oui, les silences nous parlent. Est-ce que finalement, paradoxalement, ce qui a le plus nui à Marcel Aimé, en dehors de cette ambiguïté que vous avez dissipée concernant la guerre, n'est-ce pas son talent fabuleux de dialoguiste et son sens des formules qui fait qu'en réalité, on la réduit souvent à un odiard, à une sorte d'odiard. Dans votre spectacle, par exemple, j'ai noté 4 ou 5 formules extraordinaires, toujours Grandjean d'ailleurs. « Ta connerie, elle rayonne. Les souvenirs, c'est comme le vin, plus ils sont vieux, plus ils sont bons. L'amour, c'est comme l'héroïsme, ça mérite le respect. C'est avec les points de suspension qu'un pays perd la guerre. » Enfin, et il y a pléthore ainsi de formules. Est-ce que finalement, Marcel Aimé n'a pas été, au fond, occulté par ce qu'il avait certes de très très fort, mais de plus facile dans son œuvre?
Tout à fait, exactement comme Charlie Chaplin. On se trouve exactement dans le même paradoxe. C'est parce que Chaplin avait le génie comique dans le montage de ses films muets avec Charlot, dans ce personnage un peu à la Sganarelle qu'il avait inventé, en piquant d'ailleurs la moustache, le chapeau, la canne, les chaussures à d'autres personnages, déjà d'autres acteurs. Il a réuni tout en ce petit Charlot, ce vagabond. Et paradoxalement, on retenait de Chaplin qu'il était le plus grand metteur en scène comique, enfin les comédie de Charlie Chaplin, pour les gosses, pour les enfants, un peu comme La Fontaine. Mais La Fontaine et Chaplin ne sont pas pour les enfants. Chaplin est au contraire le dénonciateur de l'Amérique qui s'élève, des gratte-ciels, de l'argent, des pauvres, des laissés pour compte. Je veux dire, il n'y a pas plus politique que les œuvres de Chaplin. Ben, c'est pareil pour Marcel Aimé. Vous avez parfaitement raison. Marcel Aimé, c'est du Audiard, c'est cette virtuosité de, comme si c'était des brèves de vie, comme des brèves de comptoir, de savoir écouter, de savoir même fustiger la langue, de la griffer. Il y a ce sens inné de ne pas faire, d'ailleurs, ce ne sont pas, vous avez parfaitement raison, ce ne sont pas des mots, des comme on dit au théâtre, des répliques, des mots d'esprit, pas du tout. C'est vraiment, ça vient de loin, ça vient d'une profondeur, d'une simplicité, d'une vérité humaine, en somme. Et c'est son talent de dialoguiste, sa rareté, qui l'a desservi. C'est exactement ça. On parlait de Cocteau tout à l'heure, c'est la même chose pour Jean Cocteau. Qui est plus important ? Il est arrivé à Cocteau la même mésaventure qu'à Voltaire. Voltaire écrit plus d'une trentaine de pièces. Il est célébré à la Comédie française comme le plus grand auteur dramatique de tous les temps. On sculpte son profil sur la salle Richelieu à côté de celui de Molière, de Racine et de Corneille. Et au XVIIIe siècle, quand on arrive à la fin du XVIIIe, l'auteur le plus joué depuis la création de la Comédie française, c'est Voltaire. Il est célébré sur la scène même du français. Eh bien, il ne reste rien de Voltaire, auteur dramatique. Zaïre, tragédie, et puis l'orphelin de la Chine. Mais c'est tout, rien d'autre. Et si on avait dit à Voltaire, mon cher, vous passerez dans l'éternité pour l'affaire Calas, pour Zadig, pour Micromégas, pour tout ce que vous avez écrit, votre correspondance et tout, il ne l'aurait jamais cru.
Le journaliste, au fond.
Voilà, exactement, tout à fait. Le premier journaliste politique. Et Cocteau, si on disait à Cocteau qu'en fait, ce qui reste de lui, ce ne sont pas ses œuvres de poète, mais c'est Cocteau cinéaste, parce qu'il n'y aurait jamais eu Godard sans Cocteau. L'invention, le génie, la modernité, l'insolence de Jean Cocteau. Oh là là là, mais Cocteau aujourd'hui, on imagine un Cocteau cinéaste aujourd'hui, que ne ferait-il pas ? Voilà, ce sont les grimaces de l'histoire. Et cette langue merveilleuse de Cocteau, ses formules, le sens de la formule, on parlait des répliques de Marcel Aimé chez lui, tout est vraiment à graver dans notre mémoire et à défendre. C'est un beau pays, la France. Son identité, au-delà de son insolence et de son courage, c'est de respecter ceux qui l'ont vraiment servi. Et servir la France, c'est probablement savoir la regarder, savoir l'aimer. Et quand on a affaire à des auteurs comme Molière, comme Marcel Aimé, comme Guitry, comme Camus, comme Zola, on sait tout de suite, quel que soit leur bord, on s'en fout, gauche, droite, juif, musulman, chrétien, c'est pas, l'identité ne vient pas de là, elle vient de cet amour et du respect pour ce pays qui, quand même, est toujours, pour ceux qui voyagent dans le monde, le pays à part, le pays qui est toujours là où on ne l'attend pas. Alors, quelquefois, il se trompe un peu, et puis quelquefois, il a bien raison.
Mais quand vous montez un spectacle comme ça, en fait, vous n'êtes pas simplement un acteur, vous n'êtes même pas essentiellement un acteur. Vous êtes autre chose.
J'essaye d'être...
Et Dieu sait s'il y a une performance, parce qu'une heure et quart, 12 personnages, un rythme d'enfer, sans que nous lâchions une seconde, notre attention, il y a une performance. Mais on a l'impression que, finalement, il y a Huster qui va au-delà de l'acteur. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Comment
oui,
vous analysez ça ?
La réponse est très simple, c'est exactement le souhait de Jean-Louis Barrault. C'est continuer la chaîne de Jean-Louis. Jean-Louis voulait que l'acteur soit en plus animateur. C'est Jean-Louis qui a inventé les restaurants dans les spectacles, c'est Jean-Louis qui a inventé les rencontres avec le public, c'est Jean-Louis qui ne cessait de prendre des notes, d'écrire, de se révéler toujours au public comme devant un miroir. Et au jour d'aujourd'hui, j'espère qu'il est encore vivant là pendant ce spectacle. J'imagine tout à fait, si jamais des pédagogues nous entendent, des professeurs, des responsables auprès des associations de jeunes ou de moins jeunes, il faut absolument maintenant, et j'en prends le serment d'ailleurs, représenter les grands classiques avec aussi, avant la représentation, pendant 10 minutes, un quart d'heure, cet échange.
Ouais, pour vous faites là.
Ah oui, pour expliquer au public, pour le détendre.
C'est-à-dire que vous êtes un passeur, vous êtes
exactement. Chose. Voilà, alors écoutez, je n'y pensais même pas. C'est exactement le mot de Barrault, un passeur. C'est exactement ça. Et on rejoint d'ailleurs Cocteau aussi, avec ce passeur. C'est un métier si noble quand il est fait dans l'humilité, au lieu d'être fait dans l'arrogance. C'est un passeur d'art, comme il y a des passeurs de foi. Et c'est beau d'être un passeur, parce qu'on tend toujours la main, et c'est ce qu'il y a de plus rare dans ce métier.
Ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est qu'à la fin, les gens ont envie, c'est étonnant, à la fin de votre spectacle, les gens ont envie de vous serrer la main.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Donc ça, c'est,
ah, c'est une récompense.
C'est l'accomplissement de ce que vous dites.
Ah oui, exactement. C'est exactement ça.
Francis Huster, merci. Donc, je rappelle que vous avez monté au Bouffe Parisien un spectacle intitulé « Traversée de Paris », un spectacle, je vais parler crûment, hein, qui prend aux tripes. Et je signale également, et ça non seulement pour tous les jeunes qui se destinent au métier de comédien, mais aussi à tous les spectateurs, parce que c'est une vraie leçon de vie. C'est le masterclass que Francis Huster donne une fois par semaine, le mercredi après-midi, à la Gaîté Montparnasse. Dépêchez-vous, parce que là, ça ne durera que jusqu'au 16 décembre, hein, c'est
oui.
Ça. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.